Chapitre 31. Dale commençait à se lasser de la fête. Il allait rentrer chez lui tout seul quand il vit Mike et Michelle Staffney tourner le coin de la maison. Cela faisait d'ailleurs plusieurs minutes que le docteur cherchait sa fille dans la foule. Il venait d'acheter un appareil photo Polaroid et voulait prendre des photographies avant le feu d'artifice. À un moment, Dale était passé devant la fenêtre d'un petit bureau où était allumé un poste de télévision que personne ne regardait. L'écran montrait une foule de gens sous des bannières étoilées. Depuis sa visite chez M. Ashley Montaigu, Dale s'intéressait assez aux informations pour savoir que ce soir-là se tenait l'avant-dernière réunion de la convention du Parti démocrate. Il s'était approché du poste juste à temps pour entendre que le sénateur Kennedy était bien placé pour être désigné par son parti comme candidat à la présidence. Lorsqu'il s'était détourné de la télévision, Michelle et Mike sortaient de l'ombre du grand chêne. La fillette entra en courant dans la maison, suivie d'un cortège d'amis. Mike regardait autour de lui d'un air égaré. Dale s'approcha de lui. « Hé, ça va ?» Ça n'avait pas du tout l'air d'aller. Mike était blême, et des gouttelettes de transpiration perlaient sur son front et sa lèvre supérieure. « Où est Arlène ?» Dale lui montra du doigt un groupe d'enfants attroupés autour de Jim. Celui-ci racontait à ses auditeurs fascinés son terrible accident et les circonstances, un pari, qui l'avait amené à grimper sur le toit d'Old Central jusqu'à ce qu'une rafale de vent l'envoie valdinguer sur une benne à ordures. Mike s'approcha à grands pas, empoigna Arlène par le bras et l'entraîna à l'écart. « Hé, qu'est-ce que tu... Donne-le-moi !» aboya Mike d'un ton sur lequel Dale ne l'avait jamais entendu parler. « Te donner quoi ?» commença Jim, bien décidé à ne pas se laisser commander de cette façon. Mike tapa sur le bras en écharpe assez fort pour faire grimacer son ami de douleur et claqua des doigts. « Allez, donne !» À cet instant, ni Dale, ni aucun garçon de sa connaissance, et Jim moins que quiconque, eût osé désobéir à Mike O'Rourke. Même un adulte eût obtempéré. Arlène jeta un coup d'œil autour de lui, extirpa son calibre 38 et le tendit à son ami. Mike vérifia rapidement s'il était chargé, le tint à bout de bras, la main pendant nonchalamment contre le corps, l'arme était presque invisible à moins de savoir qu'il en portait une, et se dirigea d'un air décidé vers la grange. Dale échangea un regard perplexe avec Arlène, puis tous deux lui emboîtèrent le pas, fendant la foule des enfants qui couraient vers le jardin où le docteur Staffney prenait des photos avec sa boîte magique, tandis que d'autres adultes installaient les fusées du feu d'artifice. Mike fit le tour de la grange sans sortir de l'ombre. Il avançait presque collé au mur, la main droite levée. Le canon court luisait à la lumière des lampes multicolores. En entendant Arlène et Dale s'approcher, il se tourna, revolver braqué sur eux, et leur fit signe de se planquer contre le mur. Il atteignit l'extrémité de la grange, contourna quelques buissons, s'accroupit pour regarder dessous, puis pivota sur lui-même, l'arme pointée sur la ruelle. Dale regarda Arlène en pensant au récit qu'il leur avait fait de sa fuite éperdue, dans cette même ruelle, devant le camion d'écarissage. Qu'est-ce que Mike a bien pu voir ? Ils arrivèrent à l'arrière de la grange. Le lampadaire dans la ruelle semblait encore accentuer l'impression d'obscurité dans ce coin. La masse ténébreuse des feuilles, les silhouettes noires sur le fond très sombre des bâtiments et des appentis. Mike tenait toujours son pistolet braqué, le corps un peu de biais comme prêt à tirer en direction de la ruelle, mais il regardait le bouquet d'arbres derrière la grange des Staffney. Dale ne remarqua pas tout de suite les traces irrégulières qui montaient le long du mur jusqu'à la petite fenêtre environ 7 mètres plus haut. On aurait dit qu'un installateur de ligne téléphonique avait utilisé ses chaussures cloutées pour creuser de petits éclats dans la paroi de bois. Dale regarda Mike. « Tu as vu quelqu'un ?»« Chut !» souffla Mike. Puis il traversa la ruelle en direction d'un buisson de framboisier. Dale sentit le parfum des fruits écrasés, puis autre chose, une odeur âcre d'animal. Mike leur fit signe de reculer et leva le pistolet, le bras solidement tendu devant lui. Dale entendit le clic du chien qu'il relevait. Il y avait une vague tache de blanc par là, la forme blême d'un visage entre les branches. Soudain, un grondement rauque s'éleva, qui ne pouvait sortir que de la poitrine d'une créature de taille imposante. « Bon Dieu !» chuchota Arlène. « Tire ! Tire donc !» Mike continuait à braquer son arme dans cette direction sans dévier d'un millimètre, le pouce toujours sur la détente. Un visage blanc et une masse sombre, trop grande et trop trapue pour être celle d'un être humain, sortit du buisson de framboisier et s'approcha. Mike ne tirait toujours pas. Le grognement redoubla, des griffes raclèrent le gravier de la ruelle, des crocs étincelèrent dans la pénombre. Mike s'appuya solidement sur ses jambes et attendit.
« Couchez, maudit chien !» dit une voix géniarde.
« Cordy !» s'écria Mike et il baissa son arme. Dale voyait maintenant que les crocs et les silhouettes sombres qui encadraient la fillette appartenaient à deux très gros chiens, un Doberman et une espèce de berger allemand retenu par deux courtes laisses, des lanières de cuir plutôt.
« Qu'est-ce que tu fabriques ici ?»
demanda Mike tout en surveillant la ruelle.
« Je pourrais te poser la même question ?»
dit-elle d'un ton acide.
« T'aurais pas vu quelqu'un par ici ?»
poursuivit Mike.
« Quelqu'un de... très bizarre ?»
Cordy poussa un petit hennissement qui pouvait être un rire, et les deux chiens la regardèrent aussitôt en retroussant les babines.
« En ce moment, il y a des tas de gens bizarres dans ce coin la nuit. Tu penses à quelqu'un de précis ?»
Mike se tourna et, s'adressant en même temps à Dale et Harlan, expliqua.
« J'étais là-haut, »
il montra la fenêtre,
« et j'ai vu quelque chose à travers la vitre. Quelqu'un plutôt. Quelqu'un de très bizarre. »
Dale regarda la fenêtre.
« Il était là-haut avec Michel ?»
L'idée lui serra le cœur. Mais Harlan n'avait pas l'air de comprendre, lui ne les avait pas vus sortir de la pénombre.
« Je viens juste d'arriver. »
répondit Cordy.
« Je suis venu avec Belzébuth et Lucifer pour voir qui était à cette soirée huppée cette année. »
Harlan s'approcha et regarda les chiens.
« Belzébuth et Lucifer ?»
Ils grognèrent et le garçon recula précipitamment de quelques pas.
« Je pensais que tu avais déménagé, » dit Dale. « On croyait que ta famille était partie. »
Le sac informe qui lui servait de robe s'agita de bas en haut comme si elle haussait les épaules. Les chiens cessèrent de s'intéresser à Jim pour se concentrer sur leur maîtresse.
« Pas, Milébou, »
dit-elle d'une voix dépourvue d'expression.
« Il pouvait pas supporter ces créatures de la nuit. Il a jamais valu un clou dans les moments de crise. Alors, ment avec les jumeaux, ma grande sœur, Maureen et son bon à rien de petit copain, ils sont tous partis chez notre cousin Souk à Oak Hill.
« Et toi, où tu vis alors ?»
demanda Mike. Cordy le regarda avec étonnement, comme outré qu'il puisse la croire assez stupide pour répondre à une telle question.
« En lieu sûr, »
répondit-elle sèchement.
« Pourquoi tu braques la petite pétoire de Jimmy sur moi ? Tu m'as prise pour une de ces créatures de la nuit ?»«
Les créatures de la nuit ?»
répéta Mike.
« Tu les as vues ?»
Elle hennit de nouveau.
« Pourquoi tu crois que pas filé que moi et les autres ont abandonné la maison, hein ?» Ces maudites saloperies se ramenaient presque toutes les nuits et même le jour.
C'était Tubby ?
Demanda Dale, l'estomac noué.
Cette forme pâle sous l'eau avec des yeux qui s'ouvraient comme ceux d'une poupée.
Tubby et ce foutu soldat, et puis aussi la vieille bonne femme morte et quelques autres. Des gosses, on dirait, mais il reste pas grand-chose d'eux, juste des haillons sur des os.
Dale hocha la tête. La façon dont Cordy parlait de cette démente spirale d'événements lui donnait envie de se mettre à rire et de ne plus s'arrêter. Mike leva la main gauche et effleura l'épaule de la fillette. Les chiens grognèrent et elle sursauta.
On aurait dû aller te voir, dit-il gentiment. On a essayé de comprendre ce qui se passait et on s'est beaucoup activé. Mais on aurait dû aussi penser à toi.
Cordy releva brusquement la tête.
Penser à moi ?
Marmonna-t-elle d'une voix rauque.
Quelle imbécilité tu racontes encore, O'Rourke ?
Où est ton fusil ?
Demanda Harlan.
Ces chiens, c'est bien mieux qu'un fusil. Je l'ai toujours, mais si une de ces créatures essaie encore de m'avoir, c'est les chiens que je lâche.
Ils s'en sont pris à toi aussi alors ?
Questionna Mike. Cordy cracha dans les hautes herbes.
Avant-hier soir, Belzébuth a arraché la main gauche de cette créature qui ressemble à Tubby. Elle grattait pour entrer.
Où ça ?
Dit Harlan sans cesser de surveiller la ruelle, la tête remuant de droite à gauche comme une aiguille de métronome.
« Vous voulez pas que je vous montre quelque chose d'encore plus bizarre que votre type là-haut à la fenêtre »
proposa-t-elle sans répondre à Harlan.
« Non, merci bien, » pensa Dale sans oser le dire.
Quant à Harlan, il était trop occupé à surveiller la zone d'ombre pour répondre.
« Où ça ?»
dit Mike.
« C'est pas loin, mais bien sûr, si vous préférez retourner à la soirée de Miss Culotte de Soie, libre à vous. »
« Et si ce n'était pas Cordy qui était là avec nous ?» se demanda soudain Dale. « S'il l'avait eu, elle aussi. Mais elle ressemble à Cordy. Elle parle comme elle. Et elle a la même odeur aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas loin »
insista Mike. Il s'était arrêté à une trentaine de mètres de la grange des Staffney, juste avant l'unique lampadaire de la ruelle. Des chiens aboyaient dans presque tous les jardins, mais Belzébuth et Lucifer ne leur manifestaient qu'un aristocratique dédain.
Dans l'ancienne coopérative ?
Elle se trouvait à 500 mètres à peine de chez les Staffney, en continuant la ruelle jusqu'à Caton Road, puis à gauche en direction de la voie ferrée. Les silos étaient désaffectés depuis qu'au début des années 1950, la compagnie de chemin de fer avait réduit le trafic sur cette ligne.
« J'y vais pas !»
intervint Harlan.
« Pas question !»
Dans une des maisons voisines, un petit chien à peine plus gros que la tête d'un des molosses de Cordy tirait sur sa chaîne.
« Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? »
demanda Mike en remettant son pistolet dans la ceinture de son jean. Cordy commença à parler, puis s'arrêta comme haletante.
« Il faut le voir. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais je sais que vous me croirez pas si vous le voyez pas. »
Mike se retourna pour regarder la propriété des Staffney, illuminée, animée, bruyante.
« On n'a pas de lumière. »
Cordy tira d'une poche de sa robe une grosse torche métallique et l'alluma. Un puissant faisceau éclaira les branches à 15 mètres au-dessus d'eux. Elle l'éteignit.
« Allons-y alors !» décida Mike.
Dale le suivit dans la flaque de lumière jaune du lampadaire, mais Harlan s'arrêta.
« Je veux pas aller là-bas !»
Mike haussa les épaules.
« Alors retourne chez Michel, je te rapporterai ton pistolet plus tard. »
Il continua d'avancer en compagnie de Dale, Cordy et les deux chiens. Harlan courut pour les rattraper.
« Je veux pas m'en séparer ce soir !»
Il ne voulait surtout pas, pensa Dale, retourner seul dans le noir jusque chez les Staffney. Au bout de la ruelle, ils tournèrent dans Caton Road. Elle n'était pas éclairée. Le maïs, un peu plus loin, s'agitait sous la brise. À la suite de Cordy et de ses chiens, ils tournèrent à gauche en direction de la voie de chemin de fer et de la ligne sombre des arbres. Les cadavres étaient suspendus à des crocs de boucher. Le portail du silo à grains avait l'air solidement fermé par une chaîne et un gros cadenas, mais Cordy leur montra que la barre de métal le retenant s'enlevait facilement des montants de bois pourri. Les chiens refusèrent d'entrer. Ils gémirent, tirèrent sur leurs laisses, roulèrent des yeux blancs.
« Ils préfèrent sauter sur les morts qui se baladent »,
expliqua Cordy en les attachant à un montant de bois à côté de la porte.
« Ce qu'il y a là-dedans leur plaît pas. Ils aiment pas l'odeur. »
Dale non plus. Le vaste bâtiment faisait 30 ou 40 mètres de long et était aussi haut qu'une maison de deux étages avec une forêt de poutrelles de bois et d'acier s'entrecroisant au plafond. La rangée de crocs descendait de ses poutres. Cordy illumina de sa torche les corps dépouillés tandis que les trois garçons, la chemise relevée sur le nez et la bouche, avançaient lentement. La puanteur leur piquait les yeux et l'air résonnait du bourdonnement des mouches. Quand Dale aperçut les carcasses, il pensa d'abord qu'il s'agissait de cadavres d'êtres humains, puis il reconnut un mouton, un veau attaché par les pattes de derrière et pendu la tête en bas, la gueule fendue d'un sourire obscène, et encore un mouton, un gros chien, un veau plus gros encore. Il y avait au moins 20 carcasses pendues au-dessus d'une longue auge faite de bidons de 200 litres coupés en deux. Cordy s'approcha du veau et posa la main sur le cou tranché d'un coup net.
« Vous voyez ce qu'ils font ? Je crois qu'ils les accrochent là-haut avant de leur trancher la gorge. Le sang suit la pente ?»
Elle accompagna du geste ses explications.
« Après, ils passent dans ce tuyau. Et ils sortent par cette gouttière. Comme ça, ils peuvent faire le plein sans avoir à transporter des seaux dehors. »«
Faire le plein ?» répéta Dale.
Soudain, il comprit ce qu'elle voulait dire. Quelqu'un avait utilisé l'auge pour transporter du sang dehors. Où ça? Où l'emmenait-il ensuite? La puanteur de la chair en décomposition, l'odeur fade du sang et les bourdonnements d'un million de mouches lui firent soudain tourner la tête. Il tituba jusqu'à la fenêtre, tira sur le vieux loquet, releva la vitre et respira avidement l'air frais. Les arbres sombres serraient de près le bâtiment et la lumière des étoiles se reflétait sur les rails.
« Il y a longtemps que tu connais cet endroit ?»
demanda Mike à Cordy d'une voix curieusement dépourvue d'expression. La fillette haussa les épaules et éclaira les poutres.
« Quelques jours. Une créature a chopé mon troisième chien l'autre nuit, alors j'ai suivi les traces de sang. »
Harlan essayait de se servir de son bras en écharpe pour se cacher le bas du visage, qui, au-dessus de la soie noire, était verdâtre.
Tu connais cet endroit depuis plusieurs jours et t'en as parlé à personne ?
Cordy tourna le faisceau de la lampe dans sa direction.
Et à qui veux-tu que j'en parle ? Au directeur de notre ex-école, peut-être ? Ou à cette patate de Barney ? Ou à Congden ? Hein ?
Arlène tourna la tête pour ne pas être éblouie par la lumière.
Ce serait toujours mieux que d'en parler à personne, nom de Dieu !
Cordy balaya avec sa lampe la rangée de carcasses, éclairant d'abord les côtes et la chair, puis l'auge rouillée et tapissée de sang figé. Dans le faisceau lumineux, il paraissait noir et épais comme de la mélasse. Il y avait tellement de mouches sur l'auge que la tôle semblait bouger.
« Je vous l'avais bien dit, non ? C'est ce que j'ai trouvé ici aujourd'hui qui m'a décidé à vous en parler. »
Arrivé au bout de la rangée de carcasses au fond de l'entrepôt, elle dirigea sa torche vers le haut.
« Bon Dieu de merde !»
éructa Arlène en reculant d'un bond. Mike, depuis qu'il avait passé la porte, tenait son pistolet à la main le long de son corps. Il le leva et s'avança. L'homme accroché là-haut avait été attaché comme les animaux, les jambes liées par un fil de fer passé dans un vieux croc de boucher. Au premier coup d'œil, son corps ressemblait à celui des moutons et des veaux, nus, les côtes bien visibles sous la chair blanche, la gorge si nettement tranchée que la tête était presque détachée du corps. En regardant le cou, Dale pensa à une mâchoire de requin avec de petits morceaux de cartilage pointu en guise de dents. Il y avait tant de sang sous le menton qu'on aurait dit que quelqu'un avait vidé sur lui des quantités de peau de peinture rouge. Cordy s'approcha de l'auge et, la lampe toujours braquée sur le cadavre, le saisit par les cheveux et lui releva la tête.
« Jésus !»
souffla Dale. Sa jambe droite se mit à trembler et il posa une main sur sa cuisse pour la maintenir.
« Congden ?»
murmura Mike.
« Je comprends pourquoi tu pouvais pas l'avertir. »
Cordy grogna et laissa retomber la tête.
« Il vient d'arriver. Il n'était pas là hier. Et venez voir ça. »
Les garçons s'approchèrent en traînant les pieds. Arlène tenait toujours son bras en écharpe contre son visage. Mike gardait son pistolet braqué et Dale sentait que ses jambes allaient le lâcher d'un instant à l'autre. Ils s'alignèrent le long de l'auge comme des buveurs assoiffés devant un bar.
Regardez.
Cordy empoigna de nouveau les cheveux de Congden et tira jusqu'à ce que le cadavre soit en pleine lumière.
Vous voyez?
La bouche de l'homme était grande ouverte, comme figée pendant qu'il hurlait. Un œil était fermé, l'autre les regardait. Le visage était maculé de sang coagulé, mais il présentait une autre particularité. Ses tempes étaient avelées de petits trous et son cuir chevelu pendait comme si des Indiens avaient commencé à le scalper avant de changer d'avis.
« Les épaules aussi, »
dit Cordy de ce ton neutre, presque professionnel, que devait avoir le père de Digger ou un médecin légiste lors d'une autopsie.
« Regardez ses épaules. »
Dale aperçut les trous, les coupures, comme si quelque bourreau s'était acharné à y enfoncer une petite lame acérée parfaitement ronde. Ce n'était pas assez pour le tuer, mais cela avait dû être très douloureux. Mike fut le premier à comprendre.
« Un fusil à plomb ?» expliqua-t-il en regardant les autres. « C'est le bord de la rafale de plomb ?»
Dale se souvint. Un des hommes avait couru vers l'endroit où Mike était caché. Le vacarme du fusil à écureuil. La casquette du type était tombée et avait roulé sur le sol. Pris à nouveau de nausée, il retourna à la fenêtre et s'accrocha au rebord poussiéreux pour ne pas tomber. Des mouches entrèrent en bourdonnant. Cordy lâcha le cadavre.
« Je me demande si c'est sa bande qui a fait le coup, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui combat ces créatures. »«
Sortons, » dit Mike d'une voix soudain chevrotante. « On a à parler. »
Dale regardait les arbres noirs dehors en respirant lentement et profondément et en essayant d'habituer ses yeux à l'obscurité, lorsque des lumières et des détonations jaillirent de la nuit. Mike arracha la torche à Cordy, l'éteignit et se mit en position de tir sur un genou, pistolet levé. Arlène essaya de partir en courant, mais buta dans l'auge et faillit y tomber. Son bras indemne s'enfonça dans le sang coagulé et des milliers de mouches s'envolèrent. L'entrepôt fut tout à coup illuminé d'éclairs aveuglants venus de l'extérieur, blanc, puis rouge vif, puis vert. Cordy fut la seule des quatre à ne pas bouger, la figure toute plissée lorsque, aveuglée, elle clignait des yeux. Dehors, ses deux chiens s'en donnaient à cœur joie.
« Ah merde !»
marmonna Arlène en s'essuyant le bras sur son jean où le sang laissait de grandes traces brunes. Les explosions au dehors se firent plus rapprochées et plus violentes.
C'est juste ce satané de feu d'artifice de Michel Staffney.
Avec un soupir de soulagement, tous se détendirent. Dale se mit à quatre pattes, se tourna vers l'intérieur et regarda les carcasses apparaître, disparaître, changer de couleur au hasard des fusées, vertes et rouges, toutes rouges, bleues, bleues et rouges, vertes, rouges, rouges, rouges. Il savait qu'il regardait un spectacle qu'il n'arriverait jamais à oublier, mais qu'il chercherait jusqu'à la fin de ses jours à effacer. Sans échanger un seul mot, ils sortirent de l'entrepôt. Après avoir remis en place barres métalliques et cadenas, s'enfonçant dans la nuit, ils reprirent le chemin de la ville.